Le Salon Noir. Occupés à fouiller, pire, à rattraper leurs publications en retard, les archéologues se racontent peu. Les mémoires de Dominique Valbel sont donc un cas rare au sein des publications archéologiques. Avant de conclure cette saison sur France Culture et laisser place aux programmations estivales, nous en ferons aujourd'hui notre livre de l'été. Dominique Valbel, bonjour. Le Salon Noir se consacre donc aujourd'hui à votre parcours, celui d'une égyptologue, actuellement professeure d'égyptologie à l'Université de Paris 4. Habituée de l'émission, vous êtes venue à maintes reprises évoquer vos terrains, vos ouvrages et cet après-midi, les Chemins de Russe, publiés chez Grasset, font une synthèse de votre longue expérience. Dominique Valbel, je connais bien entendu Horus, mais quels sont ces chemins ?
Alors, les chemins d'Horus, c'est le nom de la région où nous travaillons actuellement à la frontière orientale du delta égyptien, actuellement rejetée dans le Sinaï par le canal de Suez. C'est aussi un clin d'œil puisque j'ai inclus dans le livre un chapitre pour expliquer que j'avais écrit peut-être mon meilleur article sur la localisation des chemins d'Horus, qu'il avait été reconnu comme tel par les plus grands spécialistes, et puis que 20 ans après, j'ai encore du mal à ce que mes étudiants et mes plus proches collaborateurs suivent mes conclusions. Donc, on est bien peu de choses.
En tout cas, le Sinaï est une terre extrêmement importante, terre égyptienne, bien sûr, et une terre, on y reviendra plus tard au travers d'une de vos fouilles, puisque vous avez fouillé plus de 23 ans un site à cet endroit, donc une région peu explorée encore par les archéologues.
Bien sûr, c'est un terrain qui a été le lieu de conflits pendant une grande partie de son histoire et notamment de son histoire récente. Et ça n'est pas tout à fait favorable à la diffusion de recherches archéologiques.
Les chemins d'Horus, c'est aussi bien sûr une histoire d'hommes, une histoire d'archéologues, une histoire de chercheurs, une histoire aussi de fouilleurs, de populations locales, d'une vraie collaboration avec les Égyptiens.
Tout à fait. J'ai vraiment voulu, à travers ce livre, montrer comment nous fonctionnons, les petites idées qui nous passaient dans la tête, ce que nous étions, essayer de donner faire entrer le lecteur dans notre quotidien et puis lui faire partager cette expérience extraordinaire que nous avons vécue, notamment dans le Sinaï, avec ces bédouins qui voient leur territoire se transformer en un jardin actuellement, alors que quand on est arrivé, on était dans un sinistre cimetière de chars éventrés et
de carcasses militaires,
de carcasses en tout genre.
Justement, ces bédouins, comment vous perçoivent-ils ? Est-ce que vous en avez d'ailleurs une idée ? Vous influez directement sur leur vie, vous les faites travailler, vous faites bien sûr travailler en général la population locale. Donc il y a une incidence à tout ça.
Oui et non. Bien sûr, ce sont des gens qui ont une culture particulière. Nos bédouins viennent de la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et ils sont très différents de nos collègues égyptiens qui viennent de la vallée. Je crois qu'ils se sont beaucoup intéressés à ce qu'on fait. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a une réelle complicité entre eux et nous dans le travail sur le terrain. Ils nous aident énormément. En même temps, ils ont un certain nombre de pratiques, de références qui nous sont encore très mystérieuses.
Vous me parlez de bédouins venus d'Arabie Saoudite et venus donc du Yémen. C'est donc leur histoire, mais ce n'est pas non plus leur histoire ?
C'est une histoire un petit peu lointaine. Ceux que nous côtoyons n'ont jamais connu ces régions et sont même, pour l'essentiel, des jeunes gens d'après-guerre, d'après les guerres du Sinaï. Ils l'ont vécu tout petit au moment où ils étaient réfugiés dans des oasis du sud de la péninsule. Ce sont des enfants d'après-guerre.
Archéologie et passion sont indéniablement liées. Ce coup de foudre qui émerge dès la tendre enfance avec les premiers questionnements métaphysiques. D'où viens-je? Quelle est ma place dans l'univers? C'est valable, bien sûr, aussi pour l'astrophysique. Ce ne fut pas votre cas, cette passion d'enfant?
Là encore, oui et non. J'avais comme tous les enfants un goût prononcé pour les diplodocus en tout genre, pour les périodes de glaciation les plus compliquées et incompréhensibles à l'âge que j'avais, etc. Une sorte de fascination, mais on change d'avis maintes fois quand on est jeune, et ça n'était pas du tout ça quand j'étais adolescente que j'avais l'intention de faire.
Dans ces cas-là, pourquoi l'Égypte ?
Alors, pourquoi j'ai changé, pourquoi l'Égypte ? Mon père avait une collection d'ouvrages sur l'Égypte assez développée parce qu'il était passionné de l'Égypte ancienne. Donc je trouvais ça tout à fait intéressant et en même temps c'était son domaine, pas le mien. Et il n'était pas du tout question que je fasse ça. Et c'est vraiment par une suite de concours de circonstances que j'essaie de raconter que petit à petit l'Égypte m'a avalé et qu'elle m'a choisi, comme on dit qu'un chat choisit son maître. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé entre l'Égypte et moi.
En tout cas, c'est une discipline dévorante quand on fait de l'égyptologie.
Alors, c'est d'une richesse fabuleuse. Donc, ou on s'y intéresse ou on ne s'y intéresse pas. C'est ce que je dis quelquefois à mes étudiants quand ils croient qu'ils sont passionnés, mais qu'ils n'ont pas toujours envie de se donner autant à la discipline. C'est aussi une discipline qui vous le rend bien en permanence.
Donc, très tôt, vous êtes mis aux hiéroglyphes. Tenter de les apprendre, de les reconnaître.
Dès que j'ai compris que c'était un élément essentiel de notre compréhension, quelques-uns y avaient pensé avant moi, Champollion entre autres, et il est bien évident, quand on lit toute la littérature qui précède le déchiffrement des hiéroglyphes, qu'on ne pouvait rien comprendre à l'Égypte ancienne sans la langue. C'est une richesse. Quand on travaille sur d'autres cultures autour de l'Égypte, on s'aperçoit à quel point c'est une richesse de pouvoir disposer de tous ces textes.
Donc je reviens sur ce que vous dites, Dominique Valbel. Pour faire de l'égyptologie, il faudra passer forcément par la papyrologie.
Ah, pas par la papyrologie,
mais par le hiéroglyphe en tout cas.
Par les textes. Oui, on impose effectivement à nos étudiants, quelles que soient leurs envies, de toujours avoir au moins une bonne culture hiéroglyphique au départ. Oui.
Et certains y passeront leur été pour rattraper éventuellement leur retard. dans cette fin des années 1960, où en est l'égyptologie française ?
Alors, c'est un moment exceptionnel pour l'égyptologie parisienne, entre autres, puisque tous les plus grands noms de l'égyptologie enseignent, que ce soit à la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études, au Collège de France ou à l'École du Louvre. Donc, on a l'embarras du choix et du coup, on ne choisit pas, on suit tout.
C'est aussi l'année 1967 où le public découvre un petit pharaon dont tout le monde parle, Toutankhamon. Vous vous souvenez bien sûr de cette exposition ? Je m'en souviens aussi d'ailleurs, j'y suis passé.
Ça a été une aventure, une des premières aventures extraordinaires, puisque suivant les cours de Christiane Desroches-Noblecourt, on était associé à cette aventure de la présentation de l'exposition Toutankhamon, puis ensuite au sauvetage de la Nubie, etc. Donc on vivait en direct un grand nombre d'événements qui évidemment commençaient à être de plus en plus attirants.
Mais cette année 67 est presque une révélation pour le public, une re-révélation pour le public qui redécouvre d'un seul coup l'archéologie. Un grand nom de l'égyptologie, Jean Yoyotte, vous donna votre sujet de thèse à partir d'une petite liste sur une feuille de papier, une pratique étonnante, mais qui était visiblement courante à l'époque. J'en ai retrouvé d'autres traces. Donc vous avez choisi parmi cette liste un sujet.
Ça se passait comme ça à l'époque ? Alors maintenant, vous ne pouvez plus trouver ce genre de liste parce qu'elles sont sur nos ordinateurs. Mais en fait, on fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que pendant qu'on fait des recherches, on se dit « tiens, ce sujet-là n'a pas été traité, ça ferait un excellent sujet de thèse » et on le note parce que la plupart des étudiants, au moment où ils doivent choisir un sujet de thèse, n'ont pas encore une culture suffisante dans la discipline pour mesurer précisément ce qui est intéressant d'approfondir dans le temps que doit durer une thèse.
Et aujourd'hui, vous avez par exemple combien d'étudiants en thèse ?
Une bonne quinzaine.
C'est déjà beaucoup ?
Oui, c'est beaucoup. Heureusement, j'ai un certain nombre de collègues également qui dirigent d'autres thèses autour de moi, ce qui me soulage un peu parce que il y a des moments où les étudiants travaillent seuls, il y a des moments où ils ont besoin de vous et dans ces moments-là, c'est évidemment plus lourd. Hein.
Alors revenons bien sûr à la vôtre. Nous croyons les connaître tous, Isis, Osiris. Reste que j'ai découvert à la lecture de votre livre, Satis et Anoukis, qui sont-elles ? Hormis votre thèse, bien sûr.
Si j'avais choisi ce sujet, c'est que ces deux déesses me paraissaient particulièrement séduisantes. Physiquement, déjà, ce sont deux jeunes femmes tout à fait élégantes, l'une avec des cornes de gazelle sur sa coiffure, l'autre avec une sorte de coiffe en plume d'autruche digne de soirée parisienne. Elle jouait un rôle très important à la première cataracte, puisque l'une lançait la crue et l'autre la reprenait au moment de la décrue. Et puis, j'avais un petit faible, je dois le dire, pour Anoukis, parce que cette couronne de plumes symbolisait l'Afrique, évoquait l'Afrique pour les Égyptiens. Et j'avais déjà cette attirance pour les pays au sud de l'Égypte.
Et donc, on était déjà dans des sortes de cultes méridionaux.
Oui, ça, tout à fait. Ces deux déesses sont complètement intégrées dans la frontière méridionale de l'Égypte et la première cataracte.
Alors, quelle est leur place plutôt dans le panthéon égyptien ? Elles sont sœurs ? Elles sont sœurs d'autres sœurs, d'autres frères ?
Alors, leur relation familiale est un peu difficile à préciser dans la mesure où la notion de triade est une notion tardive dans l'histoire de la religion égyptienne. Et donc, les dieux ont entretenu d'autres types de relations que la simple relation père-mère et fils ou fille. Donc, la création de la triade thébaine est une création progressive et tardive.
Construire une thèse, c'est bien entendu rassembler une documentation éparse. C'est aussi trouver la référence manquante. Pour vous, il s'agira d'un temple, celui de Komir.
Alors ça, c'est un rêve extraordinaire. Pendant que je préparais ma thèse, j'avais mis de côté ce sujet du temple de Komir qui était évoqué simplement dans la littérature égyptologique et que je rêvais de découvrir et peut-être de fouiller un jour. Et puis, comme on était à une période où l'Égypte était sous contrôle militaire très strict, il était impossible d'aller dans ce secteur. Donc, j'avais un peu oublié, quelques années plus tard, cette envie. Quand le fouilleur égyptien du site est venu me trouver et m'a dit « Je crois que vous vous intéressez à ces textes, vous vous intéressez à Satis et Anoukis. Je suis en train de fouiller le temple de Komir. Est-ce que vous voulez venir le visiter ?»
L'égyptologie française des années 1960-1980 est un univers de mandarins, ni plus ni moins que les autres disciplines, peut-être un petit peu plus fermé. Y faire son chemin n'est pas simple. Là aussi, il faut trouver sa voie, mais aussi sa place. Ce sera pour vous tout d'abord l'IFAO, donc un poste au Caire, et ensuite le CNRS, une sorte de chemin, je veux dire même plus une sorte de voie royale.
J'ai eu beaucoup de chance tout au long de cette carrière que je n'avais pas souhaitée et qui s'est déroulée effectivement de sièges confortables en sièges confortables avec toutes sortes de possibilités et de rencontres.
Toujours est-il, il ne fallait plus être un homme pour être égyptologue à partir de ces années-là. C'est peut-être ça qui est aussi important.
On était vraiment au moment de la libération de la femme. Parallèlement, de grandes dames se sont battues pour nous ouvrir le chemin et nous donner une vie beaucoup plus équilibrée. Je pense que j'aurais certainement très mal vécu la situation antérieure. Le plus gros du travail s'est fait juste au moment où j'en ai eu besoin.
Justement, peut-être avec Christiane Desroches-Noblecourt, le sauvetage de Nubie qui avait été extrêmement médiatisé à l'époque.
Notamment, mais c'était un phénomène qui touchait l'ensemble de la société française, indépendamment de l'égyptologie.
Vos terrains sont bien entendu nombreux. Un des premiers est une référence, un cas très particulier au sein de l'égyptologie, Deir el-Médineh.
Deir el-Médineh, c'était encore un bonheur, puisque c'est un des premiers chantiers où j'ai pu faire mes premières armes. Mais le décès de Yaroslav Tcherny, le grand spécialiste des textes hiératiques de Deir el-Médineh, a laissé la place à des synthèses qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et quand Serge Sonneron m'a proposé pour ma thèse d'État de prendre le relais des travaux de Tcherny, c'était vraiment le bonheur qui m'était offert, là encore.
Alors Deir el-Médineh, c'est quand même, il faut peut-être le dire, c'est une sorte de petit village très très particulier qui dure environ 4 siècles.
Voilà, c'est un endroit où des hommes, des artisans, des artistes ont creusé, décoré les tombes de la Vallée des Rois, de la Vallée des Reines pendant une grande partie du Nouvel Empire, particulièrement à l'époque ramesside, où on a une documentation pléthorique de toutes sortes, puisqu'on a aussi bien les maisons, les tombes, les objets quotidiens, mais on a également des lettres, des procès, enfin, toutes les sortes de textes possibles et imaginables qui font que ces gens sont devenus des familiers, sinon des amis.
Et c'est ces textes donc que vous avez lus et étudiés.
J'ai essayé de... Ils étaient en grande partie publiés. Je n'aurais pas pu publier la totalité de ces choses. D'ailleurs, c'est pour ça que Tcherny, ayant consacré une grande partie de sa vie à les publier, n'a pas été au bout de ses synthèses. Mais j'ai essayé de privilégier tous ceux qui étaient les plus révélateurs sur la vie de ces gens. Oui.
Ce qui me frappe dans votre approche, c'est que vous êtes non pas intéressé à l'Égypte antique, ou du moins à son cœur, mais surtout à sa périphérie. J'ai souvenir d'ailleurs d'un livre, Les 9 arcs, que vous étudiez, les Égyptiens et les étrangers, justement. Visiblement, cette périphérie vous a toujours intéressé.
D'une part, je pense qu'on apprend beaucoup sur la nature d'une civilisation par le regard des autres. Et je pense que tout ce qui touche justement à ces contacts entre l'Égypte et le Proche-Orient, l'Égypte et la Nubie, est particulièrement révélateur sur le cœur même de l'Égypte. Et puis l'autre impératif, c'était que je m'intéressais aux institutions et en particulier aux villes égyptiennes, aux institutions urbaines, et à l'archéologie des villes, et que l'archéologie des villes dans la vallée du Nil est difficile à pratiquer dans la mesure où le terrain n'est pas extensible à l'infini, et il y a quand même beaucoup d'Égyptiens à l'heure actuelle qui vivent au-dessus des vestiges des villes antiques. C'est donc plus facile de travailler sur les périphéries.
Au-delà des maîtres, l'archéologie et l'égyptologie est aussi, bien sûr, faite de rencontres, d'associations. Ce sera, par exemple, le cas avec le plus grand archéologue suisse, Charles Bonnet, à la culture et l'élégance devenue légendaire.
Ben ça, là aussi, c'était évidemment un bonheur. On a bâti, à partir des travaux qu'on a entrepris d'abord à Deir el-Médineh, puis ensuite sur différents sites en Égypte et au Soudan, une complicité extrêmement fertile et amusante entre ses qualités d'archéologue et mon apport des textes de manière tout à fait interactive.
Vous avez d'ailleurs co-dirigé ensemble la mission franco-suisse des universités de Lille et de Genève sur le site de Serabit al-Hadim au Sinaï, un site tout à fait formidable.
Encore un bonheur.
Des mines de turquoise, c'est bien ça ?
Alors déjà, c'est assez évocateur, le sanctuaire d'Hathor, les mines de turquoise, mais en plus, quand on y est, c'est tout à fait extraordinaire et quand on peut y vivre, ce qui n'est pas très facile parce que c'est un univers minéral, mais c'est prodigieux dans la mesure où tous ces oxydes de cuivre changent de couleur en fonction de la lumière du matin au soir et on est dans un univers totalement onirique.
Alors qui est Hathor, bien sûr, puisque Hathor est la déesse, visiblement la maîtresse incontestée des lieux.
Alors Hathor est quand même aussi connue que Horus, Isis ou Osiris. C'est la déesse de l'amour, c'est la déesse des terrains étrangers, de tous les sites miniers également. C'est une personnalité à connaître. Oui.
Et ce sanctuaire minier serait le plus important de l'Égypte pharaonique ?
Non, il y en a d'autres. Simplement, le sanctuaire lui-même, oui, est assez particulier. Et le travail qu'on a pu y faire a permis de mettre en valeur des aspects de la culture égyptienne qui, là encore, par le biais de sites un peu périphériques ou extérieurs, nous ramène à des vérités totalement centrales de la culture égyptienne.
Alors prenons par exemple l'exemple de la turquoise. Cette roche semi-précieuse est-elle réellement importante dans cette Égypte ancienne ?
Elle fait partie des produits inhérents aux régalia, c'est-à-dire aux symboles de la royauté égyptienne. Et donc, comme l'or et un certain nombre d'autres produits, elle est indispensable à l'exercice de la royauté et à la figure même du roi ou des effigies qui le représentent.
Donc on peut penser que cette mine était une mine d'ordre pharaonique, sous le contrôle donc du pharaon.
De toute façon,
une véritable expédition.
La terre appartient au pharaon et le sous-sol en particulier. Et toutes les expéditions étaient soigneusement conçues de manière à ce que chaque expédition rapporte exactement ce dont on avait besoin.
Le Sinaï, bien sûr, est intéressant car il a longtemps été délaissé par les archéologues pour des raisons de sécurité. Nous le disions tout à l'heure, vous racontiez l'histoire de carcasses, de chars et autres installations militaires liées à la guerre. Toutefois, quelle était la place de ce Sinaï dans l'Égypte ancienne ?
Alors, le Sinaï, comme d'autres régions périphériques de la vallée du Nil, sont des sortes de no man's land contrôlés par l'Égypte, pas tout au long de l'histoire, mais sur la majeure partie de l'histoire, mais qui appartiennent à une sorte d'Égypte élargie, mais qui sort un petit peu des frontières qui se trouvent là où nous travaillons, c'est-à-dire dans la partie occidentale du Sinaï actuel.
Vous dirigez une autre mission franco-égyptienne, cette fois-ci sur le site de Tel El Er, dans le Nord Sinaï. 23 ans de fouilles, de mission.
Oui, alors ce qui m'intéressait particulièrement là, c'était d'expliquer comment on montait une expédition, comment on la finançait, comment on la faisait durer, comment les membres de cette mission évoluaient sur 23 ans. Il est évident que tout le monde n'est pas disponible en permanence, aux mêmes périodes tous les ans, sur la longue durée, parce qu'un chantier comme celui-là doit durer 2 mois et demi à 3 mois pour être efficace.
Et qu'est-ce que vous avez voulu y faire au départ, il y a donc 23 ans ?
Alors au départ,
quel était votre projet ? Ce projet a-t-il évolué au cours du temps ?
Au départ, j'avais 2 objectifs. D'une part, monter une fouille franco-égyptienne très, très équilibrée. Et d'autre part, essayer d'apporter par une fouille nouvelle des éléments qu'on ne connaissait pas encore sur l'archéologie urbaine. C'est évidemment la rencontre avec le fouilleur de cette région, Mohamed Abdelmaksoud, qui m'a conduit à choisir plutôt ce site qu'un autre et qui m'a tiré vers des périodes qui ne m'étaient pas tout à fait familières, comme la période perse.
Quels sont vos résultats sur ce chantier tant scientifique que je dirais aussi
Donc, quand j'ai commencé, j'avais surtout l'intention d'étudier une ville fortifiée d'une région frontalière en espérant trouver des éléments plus anciens que la période perse qui m'était un petit peu étrangère. Et puis, en fouillant, on s'est rendu compte que le site était totalement exceptionnel pour cette période et du coup, on a comme objectif d'essayer de montrer comment une forteresse de cette période est fondée, était habitée, a évolué sur toute la domination perse.
Vous y avez fait quelques très jolies découvertes, hein. Alors, ces fameux cylindres, ces sculptures.
Notre but n'est pas vraiment de faire des découvertes, mais ça fait toujours plaisir quand ça se produit et quelquefois certains dépôts nous permettent de mettre au jour soit une stèle d'une période antérieure, soit des éléments d'un petit naos à incrustation de verre, etc. Donc des choses qui sont toujours très agréables.
Dominique Valbel, rapidement, l'égyptologie française a bien sûr changé en 40 ans. C'est désormais de véritables... Les attentes des Égyptiens ont vraiment changé. Il y a une autre demande aujourd'hui.
Oui, les Égyptiens sont confrontés à un problème de sauvetage de leur patrimoine très urgent, très, très important. Et notre rôle, me semble-t-il, est d'être à leur écoute et de les aider dans la mesure de nos moyens. Je crois que toutes ces années nous ont donné des relations de confiance qui sont la clé de ce type de travail.
Et puis je rappelle donc que vous êtes professeur à l'université de Paris 4. Qu'attendent aujourd'hui les étudiants ? Vous en avez visiblement beaucoup, un plaisir d'érudition, faire peut-être ou diriger même des grandes découvertes ?
Je pense que les étudiants actuellement ont les mêmes attentes que nous avions, c'est-à-dire certains rêvent de l'Égypte mais ne se donneront jamais les moyens d'y arriver. D'autres, au contraire, sont passionnés et donnent tout à la discipline et ils sont en train de devenir les égyptologues de demain.
Dominique Valbel, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre « Les chemins d'Horus » publié chez Grasset. La semaine prochaine, le Salon Noir fera place au programme d'été. Rendez-vous donc le 1er septembre pour découvrir les derniers résultats du 11e congrès international d'archéozoologie avec Louis Chay et Jean-Denis Vigne. Le Salon Noir était réalisé par Dominique Briffaut à la technique Alexandre Dang. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le nouveau site franceculture.com.